Alors, merci d'être encore là, d'être pas encore mort. Et félicitations à tous ceux qui ont résisté jusqu'à ce moment-là. J'ai promis, c'est plus courte la seconde partie. OK? OK. Là, on a parlé de livres numérisés. On va maintenant parler des livres numériques. Donc, des livres qui sont nés déjà numériques. Et là, on pourrait parler effectivement de différentes choses, particulièrement des modèles des livres numériques et aussi des gadgets, des formats, etc. Je vais concentrer seulement sur un aspect qui, pour moi, c'est particulièrement intéressant, qui est celui-là de modèles de livres numériques. Et là, j'ai élaboré trois typologies différentes de modèles, ce que j'appelle la page virtuelle, les modèles du rouleau virtuel et les modèles de texte simple. Et je vous montrerai comment aucun d'entre eux est effectivement un modèle satisfaisant du point de vue conceptuel, mais aussi pratique. On commence par la page virtuelle. On a déjà vu d'où elle vient et le fait qu'effectivement c'est un modèle qui est pervasif. Donc, tous vos tablettes, liseuses présentent cette idée de la page virtuelle. Ils présentent le texte comme s'il y avait deux pages. On utilise son doigt, donc on fait ce qu'on appelle haptic device, parce qu'on touche les textes et on tourne les pages. Donc, on a cette métaphore de la page qui est une sorte de parodie de la page, plus qu'une page. Mais vous voyez que quelque chose passe là. Il y a comme un signe, ce truc-là, là. Ça, c'est pas normal. Dans votre livre, ne vous voyez pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un fichier vidéo, audio de la musique dans votre livre. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est quelque chose de différent, effectivement. On verra là. L'autre chose intéressante, ça, c'est les problèmes du page virtuelle, ça c'est du paginé, c'est du PDF. PDF est d'un article scientifique publié sur la revue la plus importante des humanités numériques, DHSI. DSH, je ne me rappelle pas. C'est LLC, c'était LLC, donc j'ai changé de nom d'après ça, je ne me rappelle plus. Bon, vous voyez que ce que c'est là, c'est un article, j'ai marqué un petit truc en rouge là, une chose mystérieuse, difficile. C'est un numéro 1 pour un bas de page, mais en fait ce n'est pas un bas de page, c'est une note à la fin de l'article. Donc vous avez un PDF, imaginez cette chose-là, votre enseignant vous donne un PDF à lire et vous voyez, là, il y a un petit 1. Vous voulez voir ce que c'est parce que c'est l'auteur de l'article a mis un petit 1. Vous voulez aller le voir. Donc, vous avez imaginé votre ordinateur commencer page, 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 jusqu'au moment où vous arrivez aux notes à la fin et dit ah, tiens, numéro 1. Et c'est une note très longue, donc je la lis, c'est très intéressant. Et puis, je dois revenir. Page, 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 hop. Je suis là. Je trouve le numéro 2. Page, 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 page. Je reviens. Page, page. Quel est le numéro à quel vous vous arrêtez? 2 ou 3? Pas plus que ça, évidemment. Ce n'est pas possible. Ça devient absolument impratique. On ne peut pas continuer à aller, venir, aller, venir, aller, venir. Parce qu'à un certain moment, on oublie les notes. Mais quand c'est en bas de page, c'est plus ou moins la même chose. Pourquoi? Pensez là à cet exemple-là. Là, c'est un exemple, une édition de Lady O'Shalott, hein, une poésie avec la paracritique en bas. Mais comme l'ordinateur, l'écran est rectangulaire comme ça, les textes sont rectangulaires comme ça, si on veut lire les textes, il faut élargir parce que c'est trop petit, donc on fait comme ça. On lit. Ah bon, là, je lis. Mais c'est où mon apparat? En bas. Bon, je ne peux pas, donc je vais en bas et je vais lire l'apparat. Bon, je vois l'apparat, mais je ne vois pas mon texte non plus maintenant. Qu'est-ce que je fais? On ne peut pas avoir dans le même écran l'apparat et les textes, les notes et les textes. C'est quand même doux. Monter, descendre, monter, descendre. À un certain moment, on ne lit pas. On oublie. Et effectivement, parce que les paginés par rapport à notre écran ne marchent pas. Il n'est pas pensé pour être. Il est pensé pour être imprimé, en fait, un papier. Mais nous, on pense au PDF comme la solution. Effectivement, c'est quelque chose qui ne nous donne pas la possibilité de lire de la même façon qu'on lit un texte imprimé. Le second modèle, c'est celui-là du rouleau virtuel. Qu'est-ce que c'est un rouleau virtuel? C'est comme là, les manuscrits anciens qui ont déroulé un texte, comme ça. C'est le modèle de page web. Et donc là, on a un texte qui continue en bas, jusqu'à là. Et il y a l'un de ces outils à droite qu'on utilise pour aller en bas, 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 en bas. Effectivement, ce modèle-là, c'est le modèle de page Wikipédia, de n'importe quel test de page web. Parce que c'est effectivement comme du rouleau ancien qui se déroule comme ça. Quel problème avec les rouleaux virtuels? C'est un texte illimité, donc effectivement, on peut rajouter n'importe combien de textes parce qu'il n'a pas besoin d'être paginé ou quoi. Il se déroule et c'est ajouté constamment. Si vous pensez à Wikipédia, qui est mise à jour constamment, et on ne se rend même pas compte parce que les mots qui vont dans les textes anciens, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Ça tombe et puis ça se perd. Mais il n'est pas effectivement adapté pour la lecture. Pourquoi? Parce que ce n'est pas adapté aux yeux. Le fait qu'il faut toujours passer en bas, il faut retrouver les signes, on les perd après. Donc normalement, c'est prouvé qu'on ne va pas plus en bas de deux fois. Parce qu'après, on arrête, on passe à quelque chose d'autre. Parce qu'on se fatigue à lire sur l'écran quand il y a un rouleau virtuel qui continue, sans effectivement donner des soutiens à la lecture. Donc, il ne s'adapte pas aux deux façons de lecture typiques du web, que c'est ce qu'on appelle le skimming et le scanning. Le scanning, c'est la lecture qu'on fait quand on cherche une information. Donc, je sais, c'est quelle la date Ah, voilà, j'ai trouvé. Et donc, le texte qui est long, qui est même en bas, effectivement, on ne le trouve pas parce qu'on perd un peu les yeux. Le skimming, c'est la lecture qu'on fait très rapide pour voir de ce qu'on parle quelque chose. Donc, on ne lit pas mot par mot. Et c'est quand même inadapté parce qu'au moment qu'on commence à descendre avec la petite flèche, on perd les yeux et on perd effectivement la capacité de faire ça. Donc, il n'est pas adapté à ça. Donc, il est inadapté à la lecture prolongée et à la lecture attentive, ce modèle-là. Et il est aussi inadapté pour les citations, parce que quand le texte est trop long, on n'arrive jamais à dire c'est au début, à la fin, un peu ça. Donc il n'y a pas de segmentation, ou parfois il n'y a pas de segmentation. Parfois il y a, parfois pas, ce n'est pas obligatoire qu'il soit là. Donc il faut faire beaucoup d'attention avec ce modèle-là. Il y a des limites là-dessus. Le troisième modèle du livre virtuel, c'est ceux du texte simple. Qu'est-ce que c'est simple? Qu'est-ce que ça veut dire? Le texte simple, c'est le texte qui est simple par rapport au format. Donc, normalement, il est distribué en TXT sans formatation. Il n'y a pas de balises, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'italique. C'est que le texte, la plupart des fois, est présenté en courrier, new, donc un format effectivement très brutal. Mais c'est aussi en simplicité de type intellectuel. Donc, surtout ceux qui travaillent dans la linguistique informatique, la linguistique computationnelle, la stylométrie, veulent les textes propres, sans interprétation de l'éditeur, sans balise, sans des choses qui peuvent donner des doutes sur le fait qu'il y a une variante, pas d'apparat critique, pas de rien. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on lève, qu'est-ce qu'on laisse, c'est vraiment très arbitraire. C'est-à-dire que les pages, qui est l'écriture comme nous on l'entend, elle n'est pas née avec les textes. Les espaces des mots, les majuscules, la ponctuation, très souvent sont des travaux éditoriaux. Ce ne sont pas des travaux qui ne sont pas nés avec les textes. Et donc sans annotation, sans une paratexte autour du texte, ils n'ont pas de significat. On arrive parfois à l'idiotie, à ce que j'appelle le paradoxe de l'Odyssée de Fantil. Fantil, c'est l'éditeur critique de l'Odyssée d'Homère, donc on ne parle pas d'un texte n'importe lequel, qui a décidé de mettre en ligne un open access. Mais vu que l'édition, que la maison d'édition lui disait non, tu ne peux pas mettre le travail éditorial, la paracritique, il faut enlever tout ça, il faut que laisser les textes. Il a laissé les textes comme ça. Quelqu'un d'entre vous connaît les Grecs? Oui. Est-ce que c'est un texte normal? Non. Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Exactement. Il n'y a pas les accents, il n'y a pas les spirites, rien. Il n'y a pas de ponctuation, rien de rien. On ne peut pas les lire. C'est un texte illisible. Mais quand même, il a gardé les majuscules. Effectivement, et mais même pas les majuscules ne sont pas dans les manuscrits, l'espace entre les mots, ce n'est pas dans les manuscrits. Donc, c'est quoi effectivement les textes simples? Un texte sans intervention éditoriale, un texte sans balise, c'est un texte illisible. Il n'existe pas. Les textes n'existent pas sinon à travers la médiation de l'éditeur qui est capable de les rendre lisibles ou qui met des annotations qui les rendent lisibles comme on a l'habitude aujourd'hui. Parce que là, c'est un hybride qui veut rien dire du tout. Mais du coup, toutes les approches statistiques au texte, ceux de la linguistique computationnelle, ceux de la stylométrie, les types d'approches qu'on utilisait pour découvrir qui est Elena Ferrante pour comprendre, tous les travaux faits sur distant reading, sur la lecture distante, ils demandent des textes propres. Ils demandent des textes propres, ça veut dire sans intervention, ça veut dire sans ponctuation, sans segmentation. Sans italique. Vous pensez effectivement qu'est-ce que ça veut dire ça pour la poésie? Sans l'indentation, sans la division en strophe, sans la division en verse que du texte. Effectivement, ça ne veut rien dire. C'est une falsification textuelle et c'est quelque chose, une non-compréhension de ce que c'est le texte. En fait, les algorithmes d'analyse du texte qu'on utilise sur les textes ont supposition que les textes soient linéaires, que les textes sont faits des mots, des espaces et des ponctuations, et que les textes sont stables. Mais, du coup, aucune de ces suppositions est vraie. Les textes ne sont ni linéaires, ni stables, et ni faits que par des mots, espaces et ponctuations. Les textes sont des outils culturels, stratifiés, complexe, avec des informations autour de ça. Un texte sans paratexte n'est pas un texte. On est, avec ça comme on a vu, trois modèles qui ne marchent pas, on est le moment que j'appelle le moment des incunables numériques. Qu'est-ce que c'est un incunable? Quelqu'un sait? Là, j'ai mis une image, peut-être ça nous donne une idée. Incunable, c'est un mot qui est utilisé pour définir les livres qui ont été imprimés au XVe siècle. L'invention de l'imprimerie est du XVe siècle. Les premiers livres imprimés, publiés, c'est de 1456. Donc, tous les livres qui sont imprimés à partir de ce moment-là jusqu'à 1500, l'an 1500, donc l'an après 1499, on les appelle les incunables, qui viennent du latin, c'est-à-dire qu'ils sont dans les berceaux, les livres dans les berceaux, tout petits, hein, encore des bébés, des livres bébés. Hein. Là, dans les périodes des incunables, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'industrie, naissante industrie de l'imprimerie, qui cherchait d'imiter les manuscrits pour faire semblant d'être un manuscrit, en cherchant de vendre des livres. Donc, effectivement, là, j'arrive à cette diapositive-là, je reviens là. Ça, effectivement, ce n'est pas un manuscrit, même s'il semble un manuscrit, c'est un livre imprimé. C'est la première page de la Bible de Gutenberg, le premier livre qui a jamais été imprimé. Donc, il est divisé en deux colonnes comme les manuscrits, et il y a une miniature qui est faite à la main, effectivement. Donc, les livres imprimés laissaient l'espace pour la miniature faite à la main. Ça, c'était effectivement l'idée de faire semblant de faire des livres imprimés, des livres manuscrits pour les vendre, parce que les personnes ne voulaient pas des choses mécaniques, comme aujourd'hui, ils disent, oh, moi, je n'aime pas les livres numériques, moi, j'aime les livres en papier. La même chose, ils disaient au XVe siècle, ils disaient, moi, cette chose mécanique, je préfère les livres manuscrits faits à la main, c'est beaucoup plus précieux. Effectivement, c'est beaucoup plus précieux. Mais graduellement, qu'est-ce qui s'est passé? À fur et à mesure que le marché du livre devenait plus important, que les personnes comprenaient les avantages du livre, qui coûtait beaucoup moins, qui était plus pratique, il y avait beaucoup plus de choix, et qu'effectivement, ils pouvaient acheter, la différence de coût était considérable. Un livre, un manuscrit, on dit de la Bible de Gutenberg, par exemple, coûtait comme une maison à 5 étages. C'était les mêmes prix. Donc, un livre imprimé, ça coûtait comme pour le garage, quoi. Donc, c'était une différence effectivement beaucoup, beaucoup considérable. Donc, au fur et à mesure que les personnes s'habituaient à acheter des livres imprimés, les caractéristiques typiques du manuscrit ont disparu. Plus de, là, les deux colonnes ont été une colonne seulement. Les gothiques ont laissé l'espace à une écriture beaucoup plus simple. On a perdu les miniatures, etc., etc. Les livres sont devenus les livres modernes. Est-ce qu'on est en train de faire la même chose aujourd'hui avec les livres numériques? Et là, je reviens à l'idée du fait que, par exemple, dans les livres, dans les liseuses comme celui-là, ça vient d'un e-book qui vient d'un iPad, et effectivement, on a la possibilité de mettre dedans des vidéos, des files audio, ce qu'on appelle des livres enrichis. C'est ça la possibilité, peut-être, peut-être non. C'est toujours dans une page, ça ne marche pas très bien. Les personnes se trouvent un peu désorientées pour le fait qu'ils ont une page, mais une vidéo. Mais vous voyez ce que c'est là? C'est une recette, un livre de recettes qui ont des vidéos intégrées pour montrer comment on fait des ravioles à la chinoise. Donc ça, ce n'est pas que des dessins qu'on trouve des photos. Les livres de cuisine ont des photos normalement. Avoir des vidéos dedans, effectivement, ça prend une contamination de médias. Est-ce que ça, c'est la possibilité? Schéomorphe, c'est le mot que j'ai utilisé avant, c'est-à-dire, ça veut dire imiter avec un matériel un autre matériel. Par exemple, cette table-là, je pense que c'est un schéomorphisme, c'est du plastique avec du bois qui était imprimé pour sembler du bois, mais ce n'est pas vraiment du bois. Ou si vous pensez aux églises où il y a les bougies électriques. Donc ça ressemble à des bougies, mais ce n'est pas une bougie. Ou la voiture qui a des internes qui est imprimée, ça semble du bois, mais ce n'est pas. Il y a des voitures qui essayaient d'imiter les matériels. Et donc là, quand on imite la page qui tourne, on fait ça en schéomorphisme, c'est ça. C'est un mot horrible, mais effectivement, c'est ça que ça veut dire. Et c'est un modèle qui est à la base de la plupart des logiciels. Si vous pensez comment vous appelez l'écran libre de votre ordinateur, vous l'appelez le bureau. C'est un bureau virtuel. Et vous, quand vous voulez détruire un fichier, vous le mettez à la poubelle. Donc ça, c'est tout des métaphores de travail bureautique qui est devenu partie de notre travail numérique. Et la même chose est en train de se passer avec le livre. La question est que là, ça ne marche pas. L'un des chercheurs plus raffinés sur ces problèmes-là, qui s'est penché beaucoup, est Patrick Zale, qui a parlé de la nécessité de faire ce qu'il appelle la transmédialisation. Là, la citation en allemand, hein, c'est pour les courageux. Et c'est trois volumes comme ça, tout en allemand. Très difficile. Mais ce qu'il veut dire avec transmédialisation, et ce qu'il dit, c'est qu'en séparant les textes dans son support, dès le moment où on les sépare du livre d'où il vient, on a aussi la possibilité de s'interroger sur les supports de départ et les supports d'arrivée, pour voir effectivement comment les supports influencent notre façon de comprendre les textes, influencent notre habitude, influencent notre processus cognitif. Donc, le numérique est présenté comme une reconceptualisation des problèmes et des contenus. La disponibilité de nouveaux moyens est une opportunité pour repenser nos suppositions par rapport au livre. Vous vous rappelez la longue liste, qu'est-ce qu'est un livre qu'on a commencé? Effectivement, au moment où on le sépare par rapport à son support, on sépare les textes et les supports, on se pose les questions. Qu'est-ce qu'on veut créer? Si on veut créer un nouveau livre numérique, auquel de ces modèles on peut effectivement se lier? Donc, le nouveau moyen, le numérique, nous donne la distance pour réfléchir aux fonctionnalités qu'on voudrait avoir dans les nouveaux livres. Si on a besoin d'un nouveau livre, est-ce qu'on a besoin d'un nouveau livre? Le numérique demande donc une nouvelle théorisation et compréhension de ce que c'est livre, édition, éditeur et tout ce qui va avec. Et là, je vous présente très rapidement des modèles qui ont été élaborés, qui existent, pour essayer de penser qu'est-ce qu'un livre. Les moments où on va les décrire, au moment où on va les numériser, je vous présente des modèles qui sont plutôt abstraits. Là, c'est un modèle qui a été inventé par les bibliothèques américaines, particulièrement par la Library of Congress américaine, pour décrire la différence qui existe par le fait que quand je parle, je ne sais pas de quoi, Les Misérables, je peux parler du livre que j'ai dans ma poche, je peux parler de l'ouvrage créé par Hugo, je peux penser au spectacle à la télévision, au théâtre, je peux penser à l'édition des Misérables, la première édition, la deuxième édition qui a beaucoup de copies. Donc ils ont essayé de trouver un modèle théorique qui explique les concepts de work, l'ouvrage, donc c'est les concepts les plus larges possibles, l'idée, hein, Les Misérables en général, l'expression, c'est-à-dire la première édition, la seconde édition avec des différences en mots, l'édition qui était éditée par n'importe qui et l'autre éditée par n'importe qui autre, la manifestation, c'est-à-dire l'édition publiée en 1977 en brochure par rapport à celle qui a un cartonné, qui a une couverture plutôt en pot, donc la différence comme ça. Et la copie, donc la dernière, l'item, c'est effectivement la seule chose qui est concrète, c'est qui est dans ma poche, dans mon sac à dos. Un second modèle, c'est ce qu'on appelle OHCO. Order Hierarchy of Content Object. C'est un modèle qui a été inventé pour expliquer la façon qu'on utilise pour encoder, baliser les textes en HTML ou en TOI. Donc, c'est-à-dire que le texte n'est pas fait de pages, il est fait de sections ou de chapitres, si vous voulez. Chaque chapitre est fait des paragraphes, chaque paragraphe est fait par une phrase, des phrases sont faites par des mots, les mots sont faits par des caractères. Donc, une idée de texte qui n'est pas liée à son support, mais qui est liée simplement à son contenu. Donc, des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Troisième modèle, beaucoup plus compliqué. Et on voit effectivement qui est bon à faire des modèles et qui n'est pas bon à faire des modèles. Quand le modèle est trop compliqué, ce n'est pas bon. C'est moi qui ai fait ces modèles-là. Et c'est un modèle qui essaye d'expliquer la relation qui est entre l'auteur, l'éditeur, les textes, les documents originels et l'édition critique à la fin. Ça vient d'un livre que j'ai publié il y a quelques années, qui essaye d'expliquer comment ils sont, tous ces concepts éditoriaux. Je suis une philologue de formation, sont liés l'un avec l'autre. Et comment on peut utiliser les ordinateurs pour mieux comprendre la relation qui existe entre ces différents agents, objets, concepts. Je n'entre pas dans les détails, trop compliqué. Enfin, je vous présente le dernier modèle, très rapidement. Il était nommé pendant au cours de ma présentation. C'est le modèle de la Text Encoding Initiative. C'est un modèle aussi. Un modèle de textualité, c'est un système de balisage des textes patrimoniaux, des textes qui nous intéressent dans les humanités, on dirait comme ça, qui a été inventé, quand vous avez vu les photos de Michael Sparber McQueen, Lou Barna, qui montrait comme ça les tableaux blancs, bon, ça c'est la théorie. C'était en 1986, à ce moment-là. Et c'est un modèle de texte qui est pensé pour être durable, pérenne, interchangeable, et un texte de recherche qui nous donne la possibilité de mettre des balises pour expliciter notre interprétation du texte. Donc, ce n'est pas n'importe quel texte, mais un texte de recherche qui a été pensé pour ça. Les consortiums TOI réunit plus de 70 institutions dans le monde entier, 18 pays, donc c'est un consortium international. Et c'est le standard plus répandu des humanités numériques pour le traitement de texte. Il est formé d'une grande communauté de chercheurs baliseurs, c'est comment je les éditeurs baliseurs, des personnes qui travaillent dans la recherche et qui travaillent dans la recherche en mettant des balises dans les textes. Comment ça marche? Je vous montre un petit exemple parce que c'est dans mon contrat que je dois montrer au moins une balise de la théorie avant de faire déterminer chacun de mes présentations. Donc, vous pouvez imaginer que dans votre manuscrit ou votre source première livre ancien, parce qu'on parle de texte ancien, on trouve ces symboles-là. Il y a un I, un I, un H avec une barre là-dessus et un S. Ça, c'est quelque chose de mystérieux, mais si vous êtes un médiéviste, vous comprenez immédiatement, tac, c'est une abréviation pour Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. Donc, si je voulais représenter ça dans mon encodage, je pourrais utiliser une balise, j'ai marqué en jaune, qui s'appelle « Choice », qui met dedans l'abréviation, par exemple, de sa H avec la barre, qui sta pour les au lieu des lettres E, S, U de Jésus. Parce que la I est là, la S est là. C'est en latin, Jesus. OK? Donc, en bleu, c'est comme c'est sur les sources, et en vert, c'est l'expansion de l'abréviation. Ce type de balisage nous donne la possibilité après de dire, bon, d'afficher les textes de trois différentes façons. Comme ils étaient, original, la version complètement ouverte et claire, et la version où les lettres que j'ai ajoutées comme éditeur sont distinguées de quelque façon. Parenthèse, des accolades, un italique ou entre parenthèses. Donc ça donne la possibilité d'afficher des textes différents. Vous voyez pourquoi c'est intéressant pour un chercheur? Parce que ça donne la possibilité d'annoter les textes d'un côté, mais aussi de garder l'original, d'avoir différents, d'utiliser et d'avoir différentes couches de textualité. C'est un petit exemple, je ne continue pas, j'ai promis. Quand on parle donc des modélisations, on a dit que la modélisation, ça veut dire qu'on perd des caractéristiques, on fait des choix, qu'on enlève, c'est une simplification, mais effectivement, faire un modèle, c'est très délicat, parce que la simplification pourrait devenir banalisation, perte. Une véritable perte de significat. En général, la simplification n'est pas un bug. C'est quelque chose d'obligatoire dans la modélisation. On a vu que les cartes géographiques détaillées ou pas détaillées, ce n'est pas un problème. Ils ont des objectifs différents. Donc, effectivement, ils répondent à des questions différentes. Mais il faut savoir le faire. Il faut savoir enlever les choses qui, effectivement, sont du bruit par rapport à ce qui est essentiel. Et là, on se demande, c'est qui fait ces choix? C'est qui doit faire les choix? Quand on pense au livre du futur, c'est qui fera les choix importants? C'est qui nous donnera les bons modèles, vu qu'on n'a pas encore un modèle qui marche très bien? Est-ce que sera fait par Amazon, Google, Apple, Microsoft? Ou sera fait par les lecteurs, nous, les publics de lecteurs qui demandent à grande force, nous voulons un livre fait comme ça? Ou seront plutôt les chercheurs en humanité numérique qui auront la brillantissime idée de trouver un modèle qui marche pour tout le monde. Quel est le livre du futur? Il y a différentes approches, comme on a vu. Je vous présenter qu'une approche. Il y a différents points de vue. Chaque point de vue sur le livre va donner un modèle différent. Pour l'instant, le modèle qui a été plus diffusé, c'est celle qui est capable de produire de l'argent. Différents modèles répondent à des exigences différentes. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de personnes préparées, formées, capables d'intervenir dans la création des modèles qui répondent à des exigences culturelles et non simplement monétaires. Je vous remercie.